Bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
Debout, laissez les angoisses souples. Ne pas se raidir, toutes les idées décontractées.
Heidegger, 1929. Qu'est-ce que la métaphysique ? La question donne à penser qu'on va parler sur la métaphysique. Nous y renoncerons. À la place, nous discuterons d'une question métaphysique déterminée. Et par là, nous nous transporterons immédiatement dans la métaphysique. Ainsi, seulement, nous lui offrirons la juste possibilité de se présenter elle-même. L'équipe des Nouveaux Chemins, elle, se pose la question tous les jours en compagnie d'Antoine Ravon, Lucie Tardy, Marianne Chasseur et Colomba Grossi, avec Nicolas Berger cette semaine à la réalisation, Alexandre Dang à la prise de son aujourd'hui, et celle qui a l'art de vous donner envie de lire en 2 minutes Papillon, elle se trouve à ma droite. Bonjour Géraldine Vosna-Savoie.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. L'art de donner envie, l'art contemporain, 30 ans d'art contemporain, 30 ans de comédie de la critique, nous dit Jean-Philippe Domecq, dont 3 essais paraissent aux éditions Pocket.
Rendez-vous à 10h51. Après Aristote et la science de l'être en tant qu'être, lundi, en compagnie de David Lefebvre. Après Kant et Hegel, destructeur et sauveur de la métaphysique tour à tour, hier avec Jean-François Kervégan. Avant le renouveau contemporain de la métaphysique, ça ce sera demain grâce à Michael Fessel et Francis Wolff. Je vous propose aujourd'hui, pour continuer cette semaine sur la métaphysique, de plonger les poings fermés, les yeux grands ouverts dans le grand bain heideggerien, celui qui refuse de parler sur la métaphysique tant il se trouve à l'intérieur de ces questions, en compagnie de Philippe Cabestan, professeur de philosophie en classe préparatoire au lycée Janson de Sailly. Bonjour Philippe Cabestan.
Bonjour Adèle.
La question de l'être est aujourd'hui tombée dans l'oubli. Notre époque, certes, met à son compte comme un progrès de tenir à nouveau en faveur la métaphysique. La question que nous touchons là n'est pas une question quelconque. Elle a tenu en haleine Platon et Aristote dans leur investigation. Il est vrai aussi qu'elle s'est tuée à partir de là, en tant que question et thème d'une recherche véritable. Ce qu'ils ont tous deux atteint, c'est néanmoins conservé à travers toute une variété de décalages et de repeints, jusque dans la logique de Hegel. Et ce que la pensée a autrefois enlevé de haute lutte au phénomène, fût-ce par fragments et dans de premiers pas, le voilà depuis longtemps trivialisé. Ce n'est pas tout. Là même où les Grecs avaient jeté les bases d'une interprétation de l'être, un dogme s'est constitué, qui non seulement déclare superflue la question du sens de être, mais de plus, légitime qu'elle soit purement et simplement chômée. On dit « l'être est le concept le plus général et le plus vide ». Comme tel, il résiste donc à tout essai de définition. Ce concept d'être, le plus général et donc indéfinissable, n'a d'ailleurs pas à être défini. Chacun en fait constamment usage et entend déjà aussi ce qu'il veut dire chaque fois par là. Ainsi, ce dont l'énigme incita les anciens à philosopher sans plus leur laisser de répit, se trouve devenu pour nous un lieu commun, clair comme le jour, à tel point que celui qui questionne encore en ce sens se voit reprocher une erreur de méthode.
Comment comprendre, Philippe Cabestan, que les premiers mots qui ouvrent « être et temps », l'ouvrage d'Heidegger qui paraît en 1927, proposent le constat suivant, la question de l'être est aujourd'hui tombée dans l'oubli, et qu'en même temps ils disent que cette question-là est devenue un lieu commun, clair comme le jour. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ici ?
Il y a un paradoxe, mais qui n'est pas trop difficile à résoudre, je crois. La grande thèse de Heidegger, et qui est au cœur de toute sa réflexion, de toute sa pensée, c'est la thèse selon laquelle la question de l'être est tombée dans l'oubli. Mais il faut bien comprendre ce que signifie cet oubli. Effectivement, le mot « être », on l'utilise tous les jours. Quand je dis « l'arbre est vert », ou les feuilles plutôt, les feuilles sont vertes, ce serait peut-être mieux. Quand je dis que la table est blanche, j'utilise le verbe « être ». Mais je ne l'interroge pas. Or, la grande idée de Heidegger, c'est qu'il faut renouveler l'interrogation concernant l'être, parce que cette question, au fond, elle est tombée dans l'oubli au sens où on ne se pose plus la question de la signification, la question du sens de l'être. Et c'est la question inaugurale de son livre de 1927, donc « Être étant », comme l'indique d'ailleurs le titre. Il s'agit de poser de nouveau cette question qui semble, dont la réponse semble aller de soi. Ben, être, oui, il n'y a pas à se poser de questions, ça va de soi, c'est simple. Mais pour Heidegger, au contraire, la question de l'être, la question la plus énigmatique, c'est la question que doit se poser la métaphysique, c'est la question que doit se poser la pensée humaine.
Alors pourquoi dit-il un tout petit peu plus loin dans le texte qu'on a entendu que c'est par ailleurs un lieu commun clair comme le jour ?
Oui, parce que on n'interroge plus, et donc être signifie maintenant que simplement cela est. On va dire par exemple que cette table est. On va dire que cet arbre est.
Donc il faut rendre à l'être son énigme,
voilà,
en réalité.
Parce que l'être a totalement perdu, on a oublié l'énigme de l'être. On utilise le mot, mais on a perdu le sens de son énigme. On a perdu, alors on va bien sûr approfondir ce point, on a perdu le sens de la différence ontologique, c'est-à-dire, et ça c'est au cœur de la réflexion de Heidegger, la différence entre l'être et l'étant. Alors on peut peut-être déjà
commençons par ça, quelle différence entre l'être et l'étant ?
Alors ça c'est vraiment le point de départ. Qu'est-ce qu'on appelle l'étang ? En tout cas, ce que Heidegger désigne par étang, c'est tout ce qui est. Par exemple, donc cet arbre, cette chaussure, cette voiture, enfin peu importe, cela est, donc c'est un étang. L'homme lui-même est un étang. Et simplement, il faut bien distinguer entre l'être et l'étang, parce que l'étang a différents modes d'être possibles. On fera par exemple une différence fondamentale entre une chose, un étang qui subsiste, un étang, on va dire, subsistant, donc dont le mode d'être est la subsistance, et puis un être humain qui est un étang et dont le mode d'être est si différent que Heidegger introduit le concept de Dasein. De Dasein, c'est-à-dire, on peut traduire par... Alors, il y a différentes manières de traduire. On peut traduire par être là, on peut traduire par existant, on peut traduire... peu importe. Maintenant, il est de coutume de garder le mot, on ne le traduit plus. Dasein. Mais ça veut dire simplement que l'homme, il est ouverture à l'être. Mais cette ouverture, elle peut aussi être amenée à une fermeture, c'est-à-dire à une occultation. L'homme est ouverture à l'être, mais il peut oublier la question de l'être. Et on voit bien que là, il y a une différence fondamentale entre différents étangs, puisque l'homme, c'est cet étang qui, dans son mode d'être, s'interroge sur l'être. C'est cet étang qui, dans son être, s'interroge et peut oublier aussi, parce que les deux possibilités sont ouvertes. Il peut s'ouvrir à l'être, mais dans cette ouverture à l'être, il peut aussi oublier l'être. Il peut oublier de poser la question. Et là, on arrive d'emblée au cœur de la conception heideggerienne de la métaphysique, puisque qu'est-ce que c'est que la métaphysique ? En tout cas, peut-être plus pour le deuxième Heidegger que pour le premier, mais on fera peut-être cette distinction un peu plus tard. Qu'est-ce que la métaphysique, in fine, pour Heidegger ? C'est précisément l'oubli de l'être.
L'homme serait donc celui, parmi tous les étangs présents, existants, qui peut s'interroger sur le sens de l'être et qui donc serait foncièrement métaphysique. Et cet oubli de la question de l'être entraînerait l'homme vers une forme, ce que Heidegger nomme une déchéance, une dévalence.
Tout à fait. Et là, peut-être on peut revenir au texte de 1929, à qu'est-ce que la métaphysique ?
Allons-y plutôt, puisque donc 1927, être étant, qu'est-ce que la métaphysique ? Qui est une conférence qu'il prononce en 1929,
exactement.
Deux
alors,
ans plus tard.
C'est
un très court texte.
C'est un texte, je suis vraiment heureux d'en parler, parce que c'est un texte très important, même dans notre histoire culturelle, spirituelle française, puisque qu'est-ce que la métaphysique ? C'est l'un des premiers textes traduits par Henri Corbin, donc très rapidement, en 1930. Et ce texte, alors il y a différentes traductions, et ce texte, il est intéressant parce qu'il est dans le prolongement immédiat des réflexions de Heidegger sur Kant, sur Kant et la question de la métaphysique. C'est un cours qui est contemporain. Et il est dans le prolongement, bien sûr, immédiat de son ouvrage, de son ouvrage fondamental. Il faut toujours le rappeler, ça. L'ouvrage fondamental, et Heidegger dit lui-même, c'est Être étant. Donc, quand on parle de Heidegger, il faut toujours repartir de Être étant. Et dans Qu'est-ce que la métaphysique ? Il aborde la question même de la métaphysique qui, au fond, n'est pas vraiment abordée dans Être étant. Si on regarde bien Être étant, Être étant s'interroge sur l'analytique. Enfin, Être étant est consacré à l'analytique existentielle. Être étant est consacré à la description du Dasein, des structures ontologiques du Dasein. Mais la question de la métaphysique n'est pas au cœur. Et alors, c'est très intéressant parce qu'en 1929, dans cette conférence, Heidegger tente de répondre de manière, au fond, relativement claire, me semble-t-il, si on se donne un petit peu de mal, à la question fondamentale pour lui, qui est la question de la métaphysique, et qui est aussi la question de la dimension même de l'être même du Dasein, qui est un être métaphysique. C'est-à-dire que pour Heidegger, comme pour Kant, d'ailleurs, et il le dit lui-même, il fait lui-même le rapprochement, ce qui caractérise l'être humain, ce qui caractérise le Dasein, c'est la métaphysique. C'est cette interrogation qui est au cœur. Et on peut le dire d'une manière très simple, ce qui caractérise l'être humain, c'est que pour lui, l'existence ne va pas de soi. Pour lui, être ne va pas de soi. Pour lui, la question du sens de l'être se pose. Et donc ici, on est véritablement au cœur du Dasein, au cœur de son être. Et la métaphysique, c'est pas quelque chose d'extérieur. C'est pas une activité en plus qu'on pourrait, à laquelle on pourrait s'adonner. Etc. Non, la métaphysique, et c'est pourquoi Heidegger lui accorde tant d'importance, la métaphysique, elle est l'être même du Dasein. Et on peut même faire un pas de plus et ajouter que, au fond, dans la métaphysique, se joue. J'aime pas beaucoup cette expression, mais peu importe. Se joue le rapport du Dasein à l'être lui-même. Parce que c'est l'être lui-même qui se dévoile dans la métaphysique. Ou qui s'occulte.
Notons quand même que Heidegger, alors qu'il pose la question de savoir ce qu'est la métaphysique, refuse d'y répondre. C'est j'ai lu en tout début d'émission les lignes initiales de cette conférence. Qu'est-ce que la métaphysique ? Il dit bien ceci. Qu'est-ce que la métaphysique ? La question donne à penser qu'on va parler sur la métaphysique. Nous y renoncerons. À la place, nous discuterons d'une question métaphysique déterminée. Ainsi seulement, nous lui offrirons la juste possibilité de se présenter elle-même. C'est-à-dire que il est tellement à l'intérieur même des problématiques métaphysiques, puisque l'être lui-même est tellement constitué de ce questionnement-là, que proposer une définition de la métaphysique serait encore se situer à l'extérieur de cette activité.
Je crois que je suis heureux aussi qu'on ait lu ce passage, parce que d'emblée, on voit bien comment Heidegger situe son propos. Il ne s'agit pas de tenir un discours sur, parce que tenir un discours sur la métaphysique, ce serait bien sûr se tenir à l'extérieur. Et c'est pourquoi il propose plutôt de se placer dans la métaphysique, et donc de poser d'emblée une question métaphysique, afin que, et là la formule est assez intéressante, afin de lui donner la possibilité de se présenter elle-même. Alors, on peut peut-être s'arrêter sur ce verbe. Pourquoi il est intéressant ce verbe ? Parce que il nous rappelle, alors c'est peut-être une surinterprétation, mais c'est peu importe, il nous rappelle l'ancrage phénoménologique de la pensée heideggerienne. Il faut effectivement rappeler que Heidegger est d'abord le disciple de Husserl. Et que les grandes lectures heideggeriennes, les grandes lectures de Heidegger, c'est l'œuvre d'Husserl, à commencer par les recherches logiques. C'est d'ailleurs, lui-même le dit, à partir de certains passages des recherches logiques, qu'il trouve le point de départ de sa propre réflexion et de sa propre interrogation sur l'être. Ça concerne notamment ce que Husserl appelle l'intuition catégoriale, mais on laissons de côté. Et il faut toujours rappeler que Heidegger, la pensée de Heidegger trouve son point de départ dans la phénoménologie husserlienne, c'est-à-dire dans une injonction qui est le retour, alors je reprends la formule, qui est le retour aux choses mêmes. C'est-à-dire, il faut faire retour au phénomène. Et le phénomène, qu'est-ce que c'est ? C'est l'être tel qu'il apparaît. C'est l'être tel qu'il se présente. Et donc ici, on retrouve bien le sens de ce verbe « se présenter ». Il faut effectivement ne pas se tenir à l'extérieur, tenir un discours sur tout ce qu'on a dit sur la métaphysique, mais il s'agit de s'inscrire dans la métaphysique elle-même, et c'est en s'inscrivant dans la métaphysique elle-même qu'il est possible de laisser à la métaphysique la possibilité de se présenter, de se déployer, bref, d'apparaître. Et là, on est en phénoménologie.
Même si cela paraît contradictoire, voire paradoxal, de proposer une méthode phénoménologique pour parler de métaphysique, oui. Puisqu'encore faut-il que les objets de la métaphysique puissent apparaître.
Voilà. Alors ça, c'est la grande idée de Heidegger. C'est l'idée que, précisément, la phénoménologie est susceptible, la phénoménologie est en mesure d'être l'ontologie authentique. C'est-à-dire que, précisément, la phénoménologie... Alors là, on est bien sûr, alors on dit adieu à Kant, hein, bien sûr. Hein. La phénoménologie, c'est la possibilité de laisser l'être apparaître. Et alors, on va y venir certainement, on va voir de quelle manière. Mais effectivement, nous ne sommes pas coupés de l'être. Nous ne sommes pas coupés, au contraire. Nous avons, je dirais, j'aurais envie de dire presque un commerce quotidien, même si nous le fuyons, même si nous n'en avons pas conscience, mais nous avons un commerce quotidien avec l'être. Et c'est ce commerce quotidien avec l'être qu'il s'agit de laisser apparaître. Et là, on retrouve une notion tout à fait intéressante, qui est l'idée, de, au fond, ou sur l'idée de réduction phénoménologique, c'est-à-dire de condition d'apparaître. Mais...
La phénoménologie pure à laquelle nous voulons ici préparer l'accès, en caractérisant sa situation exceptionnelle par rapport aux autres sciences, et dont nous voulons établir qu'elle est la science fondamentale de la philosophie, est une science essentiellement nouvelle. Ses caractères essentiels la rendent étrangère à la pensée naturelle. Aussi est-ce seulement de nos jours qu'elle a tendu à se développer. Elle se nomme une science des phénomènes. Or, c'est également aux phénomènes que s'appliquent d'autres sciences connues depuis longtemps. Ne voit-on pas dans la psychologie une science des apparences ou des phénomènes psychiques et dans les sciences de la nature, celle des phénomènes physiques? De même, on parle parfois en histoire de phénomènes historiques et dans la science de la civilisation de phénomènes de civilisation. Eh bien, il en est de même pour les autres sciences du réel. Le sens du mot « phénomène » peut varier dans ses diverses acceptations. Il peut avoir par ailleurs d'autres significations, mais il reste sûr que la phénoménologie, elle aussi, se rapporte à tous ces phénomènes, en prenant ce terme dans tous ses sens. Mais elle le fait avec une attitude toute différente, qui modifie d'une manière déterminée chacun des sens de ce terme, tel que nous le proposent les sciences qui nous sont depuis longtemps familières. Ces divers sens ne pénètrent dans la sphère de la phénoménologie qu'après avoir subi cette modification.
Bien à plat sur la mort, idée tendue, la mort étendue au-dessus de la tête, la vie tenue de deux mains. Élevez ensemble les idées sans atteindre la verticale et amenez en même temps la vie devant le vide bien tendu. Marquez un certain temps d'arrêt et ramenez idée et mort à leur position de départ. Ne pas détacher le vide du sol. Garder idée et mort tendus. Angoisses écartées, la vie au-dessus de la tête. Fléchir le vide en avant en faisant une torsion à gauche pour amener les frissons vers la mort. Revenir à la position de départ.
Voilà, on entend un extrait du quart d'heure de culture métaphysique proposé par Gerasim Luca, Philippe Cabestan, qui vient essayer de proposer cette gymnastique des neurones et du corps pour comprendre le texte que j'ai lu précédemment. C'est un extrait des idées directrices pour une phénoménologie de Husserl, donc en 1913, où il présente la phénoménologie comme étant cette science fondamentale de la philosophie.
Oui, alors c'est un texte qui est donc, c'est la première page des, ce qu'on appelle dans notre jargon les IDN, c'est-à-dire les idées directrices pour une phénoménologie, texte de 1913. Et dans cette page, ce qui est intéressant, c'est que Husserl fait bien le lien avec les autres sciences. Effectivement, l'histoire étudie les phénomènes historiques. La biologie étudie les phénomènes biologiques, etc. Et d'une certaine manière, on pourrait se penser, mais quelle est la spécificité de la phénoménologie ? Puisque la phénoménologie, elle prétend elle aussi faire retour aux phénomènes et étudier les phénomènes. Et donc on pourrait se dire, bah, au fond, elle est superflue, cette discipline. Il y a l'histoire, il y a la biologie, il y a l'astrophysique, etc. Or, la grande idée de Husserl, c'est que précisément la phénoménologie a sa place, et même elle a une place fondamentale, parce que la phénoménologie est cette discipline, entre guillemets, qui aborde les phénomènes d'une manière tout à fait particulière. Et là, il y a un point très important qui va nous permettre de mieux comprendre aussi le texte de Heidegger et la conception de Heidegger de la métaphysique. Pourquoi ? Parce que pour Husserl, la phénoménologie tente d'accéder au phénomène. Le phénomène ne se donne pas d'emblée. Le phénomène, c'est pas ce qui apparaît tout d'abord. Au contraire, il s'agit de le dévoiler. Et la condition d'accès au phénomène, la condition du dévoilement du phénomène lui-même, c'est ce que Husserl appelle la réduction phénoménologique. Ce qu'on appelle aussi l'époké, la réduction transcendantale. Là, après, il y a des distinctions qui, ici, ne nous concernent pas. Mais l'idée fondamentale, c'est celle-ci. C'est que pour accéder au phénomène, et donc on va pas accéder au phénomène physique comme le physicien ou au phénomène biologique comme le biologiste, pour accéder au phénomène, le phénoménologue doit rompre avec ce que Husserl appelle l'attitude naturelle. Il s'agit de rompre avec l'attitude naturelle, rompre avec l'apparente du phénomène dans la quotidienneté, pour justement faire apparaître véritablement le phénomène, et il s'agit d'adopter une autre attitude. Et cette attitude, on va l'appeler l'attitude phénoménologique, qui suppose pour Husserl ce qu'il appelle la mise entre parenthèses du monde, la suspension, l'époquée, la suspension, on pourrait dire aussi, de notre foi perceptive, comme dirait Merleau-Ponty, la suspension de notre croyance en l'existence de tout ce que nous percevons, notre croyance dans l'existence du monde. Il faut mettre cela en suspens pour précisément faire apparaître les phénomènes, pour pouvoir accéder aux phénomènes.
Alors comment comprendre, parce que c'est, effectivement ce point est important pour comprendre ensuite les analyses notamment qu'Heidegger va proposer de l'angoisse en particulier, qui est cette situation dans laquelle l'homme va pouvoir se révéler à lui-même, c'est-à-dire comme un être jeté et un être surtout pour la mort. Vous dites, il ne faut plus, cette suspension consiste à suspendre en fait, à ne plus croire en l'existence du monde pour laisser apparaître les phénomènes. Ça veut dire qu'ici on est dans une attitude pratique, c'est pas simplement une prise de position disons théorique.
Alors il s'agit quand même, alors chez Husserl en tout cas, il s'agit plus d'une prise de position théorique. Il s'agit vraiment d'une opération qui est une sorte de condition de possibilité de l'apparaître et une condition de possibilité de la phénoménisation du phénomène, de l'apparaître du phénomène. Donc ici, ce serait plutôt... Alors que effectivement, chez Heidegger, les choses changent. Et on peut faire facilement la transition parce que dans Qu'est-ce que la métaphysique précisément, Heidegger commence par dire, mais les sciences... Elle s'interroge sur les temps. Et effectivement, la biologie va interroger le vivant en tant qu'étant. De même, la physique va s'interroger sur les propriétés de la matière, mais en tant qu'étant. Or, quelle est la spécificité de la métaphysique ? C'est précisément de faire apparaître la différence. Alors, dans Qu'est-ce que la métaphysique ? On ne va pas dire de l'être et de l'étant, parce qu'on a une étape intermédiaire, mais la différence du rien et de l'étant. Mais ce rien, on a bien compris que ce rien, c'est l'autre nom de l'être, si je puis m'exprimer.
Alors
ainsi.
Non, on n'a pas encore compris si on n'a pas lu le texte. Alors qu'est-ce que ça veut dire que le rien est l'autre nom que l'être ? Puisque le rien, nous, on l'identifie au néant, qui est au contraire du côté du non-être.
Alors voilà, ici, il faut préciser une chose. C'est que le mot rien est ambigu. Parce que quand on dit il n'y a rien, on pourrait dire ben, il n'y a rien au sens de c'est du néant. Or, le rien, ici, n'est pas synonyme de néant. Et parfois, d'ailleurs, c'est le cas dans la traduction d'Henri Corbin du texte, le mot nichts, donc le mot allemand, est traduit par néant. Or, c'est un peu regrettable parce que il faut distinguer le néant et le rien. Qu'est-ce que c'est que le rien ? Oh, d'une manière négative, c'est très simple. Le rien, c'est le non-étant. C'est tout ce qui n'est pas étant. Il faut saisir le rien comme précisément le non-étant. Mais dire que le rien est le non-étant, ça ne veut pas dire que le rien est néant. Et là, il y a une petite distinction à faire. Parce qu'en français, quand on dit néant, à ce moment-là, on synonyme de non-être. Et là, on est un peu perdu. Donc ici, il faut mettre de côté le néant, mettre de côté le non-être, pour bien comprendre que ce rien, on peut l'aborder de manière négative, comme le non-étant, mais ce non-étant n'est pas le néant.
Alors, le rien n'est pas le non-être, puisque le rien n'est pas le néant, et c'est là où on comprend tout le sens de la distinction entre l'être et l'étant. Le rien est peut-être du côté du non-étant, mais il est du côté de l'être.
Exactement. Voilà. Il me semble que c'est la présentation la plus claire qu'on puisse donner. C'est l'idée, donc, qu'il y a l'étant, ce que Husserl, dans le texte que vous avez lu, enfin, qui a été lu précédemment, appelle les phénomènes. Et il y a l'étang donc qui est l'objet de la recherche scientifique, et ce qui va faire la spécificité de la métaphysique, c'est de s'interroger sur la condition même de l'étang, qui est l'être. Parce que l'être n'est jamais séparé de l'étang, pour Heidegger. L'être est toujours l'être de l'étang. Mais il ne s'agit pas d'accomplir ce que la métaphysique a accompli tout au long de notre histoire, cette occultation de l'être en confondant l'être et l'étang. Et là, on se retrouve au cœur de la pensée de Heidegger.
Et pourquoi nous soucier de ce rien? Si le rien est justement repoussé par la science et relégué comme le nul, eh bien seulement quand nous reléguons ainsi le rien, ne le concédons-nous pas, justement? Pouvons-nous parler de concéder quand nous ne concédons rien? Peut-être ce va-et-vient du propos est-il déjà le fait d'une vide querelle de mots. Mais c'est bien le moment pour la science d'affirmer de nouveau, à l'encontre, son sérieux et sa sobriété de sa démarche, à savoir qu'elle a uniquement affaire à l'étang. Le rien, que peut-il être d'autre pour la science qu'un monstre et une chimère? Si la science a raison, ce seul point demeure solide. La science ne veut rien savoir du rien. Petit rien mis bout à bout par Catherine Deneuve et Serge Gainsbourg. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h27. C'est le troisième temps de notre série d'émissions consacrée à la métaphysique. Qu'est-ce que la métaphysique? C'est la question que je pose à mes invités depuis lundi, où nous parlions d'Aristote, hier mardi, Kant et Hegel, et aujourd'hui de Heidegger, l'auteur de Être et temps, et d'un article, une conférence intitulée Qu'est-ce que la métaphysique, justement, avec, pour en parler avec nous en studio, le professeur de philosophie en classe préparatoire au lycée Janson de Sailly, Philippe Cabestan, qui vient de faire paraître aux éditions Hermann Qui suis-je? Sartre et la question du sujet.
L'angoisse diffère fondamentalement de la crainte. C'est toujours devant tel ou tel étant déterminé, qui sous tel ou tel aspect déterminé nous menace, que nous éprouvons de la crainte. La crainte devant craint à chaque fois aussi pour quelque chose de déterminé. Parce que le propre de la crainte est ce caractère limité de son devant quoi et de son pourquoi, celui qui craint, le craintif, est retenu par ce qui l'affecte. Dans l'effort pour se préserver là-devant, devant ce quelque chose de déterminé, il perd toute assurance par rapport à autre chose. En somme, il perd la tête. L'angoisse ne donne plus lieu à un tel désarroi. Bien plutôt, elle répand un calme singulier. Sans doute l'angoisse est-elle toujours angoisse pour, mais non pour ceci ou pour cela. Dans l'angoisse, disons-nous, un malaise nous gagne. Que signifie le « un » et le « nous » Nous ne pouvons dire devant quoi un malaise nous gagne. Cela nous gagne dans l'ensemble. Toute chose et nous-mêmes nous abîmons dans une indifférence. Cela toutefois n'ont au sens d'un simple disparaître. Au contraire, dans leur recul comme tel, les choses se tournent vers nous. Ce recul de l'étang dans son ensemble, qui nous investit dans l'angoisse, nous oppresse. Aucun appui ne reste. Il ne reste et vient sur nous, dans la dérive de l'étang, que cet aucun. L'angoisse manifeste le rien.
Et voilà le retour du rien, Philippe Cabestan. Alors vous disiez que le rien était du côté de l'être. Si l'angoisse manifeste le rien, ça veut dire en toute logique que l'angoisse va nous révéler notre être même.
Exactement. C'est peut-être là la grande idée, la grande particularité, originalité pardon, de Heidegger. C'est que il ne s'agit pas d'accéder à l'être de manière rationaliste. Il ne s'agit pas de construire, par exemple, comme on pourrait faire Leibniz ou Descartes, des preuves de l'existence de Dieu. Pas du tout. Ici, on s'appuie sur ce que Heidegger appelle des dispositions affectives. Il évite le terme de sentiment, parce que quand on parle de sentiment, on a un terme qui plus relève de la psychologie et qui ne donne pas la pleine mesure de ce qui est éprouvé. On a un sentiment et puis ce sentiment va et vient. Alors que là, on a véritablement, pour Heidegger, avec l'angoisse ou avec l'ennui, on en parlera peut-être, avec l'angoisse, avec l'ennui, on a des dispositions affectives et ces dispositions affectives ne sont pas des dispositions purement subjectives qui ne concerneraient que l'individu lui-même, mais au contraire, ces dispositions affectives sont l'occasion d'une ouverture même à l'être. C'est l'occasion d'un dévoilement. Et en l'occurrence, on va le voir, d'un dévoilement du rien. Et donc ici, il y a une importance fondamentale accordée par Heidegger à ce qu'on appelle l'affectivité, c'est-à-dire à ces dispositions affectives qui nous mettent en relation, avec ce que bien souvent nous oublions, avec ce que nous passons sous silence, c'est-à-dire le rien, le néant, mieux le rien, on a dit, ou l'être.
Alors, en quel sens l'angoisse diffère-t-elle fondamentalement, nous dit Heidegger, de la crainte ?
Oh, là, la distinction est facile à faire. Dans le cas de la crainte, de la peur aussi, la crainte, la peur, ce sont des affects, on va dire, qui se rapportent à l'étang. Par exemple, c'est un exemple que j'aime bien prendre. J'avais un jour sur ma cuisse, cet enfant, une guêpe qui s'était posée, et là, ouf ! L'idée même que la guêpe allait me piquer, là j'avais peur. J'étais habité par la crainte. Et donc ici, la crainte ou la peur se rapporte à un étang, en l'occurrence une guêpe. L'angoisse est pour Heidegger une disposition tout autre. Et c'est pourquoi elle retient son attention. Et c'est pourquoi il la place au cœur même de Sein und Zeit. Puisque il y a un paragraphe, notamment le paragraphe 40 dans Sein und Zeit, dans Être et Temps, qui est consacré à l'angoisse et à la distinction de la peur et de l'angoisse. Donc on retrouve cette même idée. Et l'angoisse pour Heidegger, elle est une disposition tout autre puisque elle n'est pas en rapport avec les temps. Quand je suis angoissé, je peux pas dire ce qui m'angoisse. Je peux pas dire que c'est ceci qui m'angoisse ou que c'est cela. Mais je suis angoissé, point. Et cependant, cette angoisse, il y a bien un motif d'angoisse. Il y a bien un quelque chose devant quoi, un devant quoi dit Heidegger de l'angoisse. Mais ce devant quoi, cela qui suscite mon angoisse, ce n'est pas quelque chose d'étant. Et la grande thèse, alors qui est bien sûr qu'on peut discuter, mais qui en tout cas est au cœur du propos de Heidegger, c'est que l'angoisse, elle est angoisse de rien. Elle est angoisse justement de rien, mais attention, ce rien c'est pas le néant. Elle est angoisse face au rien, elle révèle le rien, c'est elle qui le dévoile. Il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas le rien et après l'angoisse, c'est l'angoisse qui me révèle le rien et qui me met en relation avec le rien.
S'angoisser, c'est découvrir originalement et directement le monde comme monde. Ce n'est pas du tout que la réflexion se détourne d'abord de l'étang intérieur au monde pour penser un monde, devant quoi naît ensuite l'angoisse. Au contraire, l'angoisse étant un mode de la disposibilité, elle découvre avant toute chose le monde comme monde. Ce qui ne signifie cependant pas que dans l'angoisse, la mondéité du monde soit saisie conceptuellement.
Je vous en prie, asseyez-vous. D'après le docteur Cusamano, votre médecin de famille, j'ai cru comprendre que ces derniers temps, vous vous étiez évanoui à la suite d'une angoisse subite et que vous ne pouviez plus respirer.
Ce sont eux qui ont parlé d'angoisse parce que tous les examens et autres analyses n'ont rien mis en évidence. C'est ce qui fait que je suis là.
Vous refusez d'admettre que ça puisse être de l'angoisse. À votre avis, qu'est-ce qui aurait pu vous faire tomber dans les pommes?
J'en sais rien. Le stress, peut-être. Deux mois avant, j'avais vu un couple de canards sauvages débarquer dans ma piscine. Ah, c'était surprenant. Ils devaient venir du Canada ou de je ne sais où. Et c'était la migration. Ils avaient des petits.
Qu'y a-t-il chez ces canards qui soient tellement importants à vos yeux?
Je sais pas, je trouvais que c'était sympa d'avoir ces... d'avoir ces petites créatures dans ma... dans ma piscine avec leurs petits bébés. Ça m'a fait triste de les voir s'en aller. Ah non, ben le voilà qui va se mettre à pleurer. C'est pas vrai, là, qu'est-ce qui m'arrive?
Quand les canards ont donné naissance à leurs bébés, ils sont devenus une famille.
C'est vrai. C'est ça, le lien. La relation. J'ai peur de perdre ma famille. Comme j'ai perdu les canards. C'est ça que je redoute le plus, finalement. J'arrête pas d'y penser.
Mais que voulez-vous donc qu'il se passe?
J'en sais rien.
J'en sais rien. Et voilà, à nouveau, le retour du rien, Philippe Cabestan. Alors, dans cet extrait de la série Les Sopranos, où le personnage fait part d'une angoisse qu'il n'arrive pas à identifier, et même ce que lui propose la médecin, à savoir le rapport à cette famille de canards, hein, qui a eu lieu à côté de lui, qui lui ferait peut-être regretter ou redouter la perte de sa propre famille, ne le convainc pas, nous permet d'aborder, vous avez rapidement évoqué la dimension, disons, de l'importance de l'affectivité pour Heidegger. Et en effet, ce qu'il y a de fascinant dans les textes de Heidegger, c'est cette proximité entre un vocabulaire souvent hermétique parce que forgé de toutes pièces pour essayer de nommer au plus près un enjeu métaphysique et cette tonalité résolument affective où les questions d'angoisse, de curiosité, de quotidien, de quotidienneté, ce qui fait qu'on est toujours à la fois dans quelque chose qui nous paraît abstrait et en même temps qui est toujours extrêmement concret. Alors comment, si on essaye d'aller encore un peu en avant et de définir davantage la manière qu'a l'angoisse de nous révéler le rien, comment cette angoisse, celle que l'entend Heidegger, n'est pas simplement compréhensible comme un phénomène, disons, purement psychologique, dont on irait faire part à son médecin?
Alors, je me permets de revenir un tout petit peu en arrière, parce que, comme vous évoquez Les Sopranos, c'est une série que je connais bien, et je dois avouer que c'est une série qui est, par certains aspects, extrêmement amusante, dans la mesure où elle met face à face un chef de la mafia locale, mais c'est quand même un chef de la mafia, et puis une psychanalyste. Et évidemment, la psychanalyste tombe légèrement amoureuse de son chef de la mafia, etc. Évidemment, il y a des scènes très, très, très amusantes où ce chef de la mafia, qui vient d'assassiner ou donner l'ordre d'assassiner plusieurs personnes, est en train d'évoquer ses troubles, ses difficultés à vivre, son vague à l'âme, etc. Alors, pour en revenir au rien et à l'angoisse qu'éprouve donc ce chef de la mafia, comme tout un chacun, parce que c'est pas parce qu'on est chef de la mafia qu'on n'est pas angoissé.
Au contraire,
peut-être. On pourrait dire d'abord que l'analyse de Heidegger est relativement différente d'une appréhension, d'une approche psychologique de l'angoisse. Sur l'angoisse, bon, il y a énormément de textes qui ont été écrits, notamment par Freud et puis par tout le courant psychanalytique, qui met en rapport l'angoisse avec la sexualité, des choses comme ça. Je ne développe pas plus, mais juste pour souligner que Heidegger a une compréhension, me semble-t-il, plus profonde de l'angoisse, parce que précisément, il insiste sur le rien de l'angoisse. Le fait que dans l'angoisse, et c'est pourquoi il est très difficile de parler de l'angoisse à son docteur, je suis angoissé, ben oui, mais qu'est-ce qui vous angoisse? Et c'est difficile de dire à un docteur, ben rien. Parce que là, on est un peu dans l'impasse.
Mais si on savait, on aurait peur. La peur a un objet quand l'angoisse n'en a pas.
Si je commence à dire, j'ai peur, par exemple, de perdre ma maison, ou j'ai peur que ma femme me quitte, alors là, tout va bien. Tout va bien. J'espère qu'on me comprend.
Symptôme est identifiable, en tout cas.
D'accord. Mais dans le cas de l'angoisse, effectivement, la difficulté, c'est que l'angoisse est à propos de rien. Alors, me semble-t-il, pour bien comprendre la conception heideggerienne de l'angoisse, il faut passer par l'être pour la mort. Je crois que c'est là le meilleur...
Avec des guillemets entre l'être pour la mort.
Parce que, au fond, l'angoisse...
Des guillemets, les tirets, pardon.
De manière privilégiée, l'angoisse, on l'éprouve lorsqu'on est confronté à sa propre mortalité, c'est-à-dire au fait que nous allons mourir, et lorsqu'on est confronté à la mortalité des siens. Et là, effectivement, parfois même, je me dis, mais ça c'est une interprétation personnelle, que les pleurs au cimetière ou à l'occasion de la mort d'un proche sont une forme dérivée de l'angoisse. Mais que ce qui est fondamental derrière les pleurs, derrière la tristesse que nous éprouvons, ce qui est fondamental, c'est l'angoisse, c'est-à-dire cette épreuve du rien, mais attention, le rien n'est pas néant. Cette épreuve du rien qui est en fait l'épreuve de notre, déjà, de notre propre être, de notre condition humaine, si on peut dire. L'épreuve de notre mortalité. Et c'est ça qui nous angoisse. Et l'angoisse, pour Heidegger, elle est révélatrice du rien, mais dans être étant, elle est aussi révélatrice de notre propre être, comme vous l'évoquiez, de notre être jeté, de notre être mortel. Et on comprend à ce moment-là que l'angoisse est en rapport direct avec notre existence, au sens où l'existence est la caractéristique du Dasein, au sens où précisément les étangs, tels que cette pierre ou cette fleur, n'existent pas. Ils sont, ils subsistent, ce sont des êtres vivants, mais ils n'existent pas et ils ne sont pas confrontés à cette épreuve qui est la nôtre et qui est au cœur de l'angoisse.
Donc l'angoisse va nous révéler le caractère fini de notre existence, notre finitude, le caractère fini aussi de notre être. Mais est-ce que cette fois-ci, le rien ne rejoint pas le néant, puisque finalement, l'angoisse est celle de disparaître et de basculer du côté du non-être?
Oui, alors ce serait une interprétation possible à partir de la mort, en disant la mort, c'est on tombe dans le néant, on disparaît. Je ne pense pas que ça soit la thèse de Heidegger. Il me semble que justement il faut garder l'idée de l'angoisse face au rien, et que l'angoisse, elle est révélatrice d'abord de notre être, de notre finitude, qui prend la forme de la mortalité, de notre être mortel. Elle révèle aussi, et alors ça c'est un petit peu plus loin dans qu'est-ce que la métaphysique, elle révèle aussi la finitude de l'être. Et donc ici, dans l'angoisse, je suis passé par la mort et par notre finitude et notre mortalité, mais il ne faudrait pas perdre de vue que dans qu'est-ce que la métaphysique, l'angoisse c'est précisément ce qui va nous ouvrir à la question de l'être. Puisque on est en contact avec le rien. Et il est tout à fait intéressant de voir ce que dit Heidegger à propos des sciences. Pour les sciences, le rien, il dit, c'est un monstre, une chimère. La science ne veut pas entendre parler du rien.
Elle
ne veut rien savoir du rien. La formule est belle, elle ne veut rien savoir du rien. Mais, ajoute Heidegger, en ne voulant rien savoir du rien, elle est déjà en relation avec le rien. En fait, elle est déjà préoccupée par rien, puisque précisément, c'est cela qui lui permet d'accéder à l'étang en tant qu'étang. La science ne veut rien savoir du rien, mais ne voulant rien savoir du rien, elle témoigne d'un savoir du rien. Et c'est à partir de ce savoir du rien qu'elle constitue l'étang en tant qu'étang. Et donc ici, l'angoisse, c'est ce qui nous permet d'accéder à ce dont la science ne veut rien savoir, mais qui est pourtant au fondement même de la science, puisqu'il n'y aurait pas d'étang s'il n'y avait pas le rien, s'il n'y avait pas l'être. Et en ne voulant rien savoir du rien, eh bien, la science accède à son propre objet, et la condition d'accessibilité ou d'accès à son objet, c'est le rien. Et ce rien, il va falloir l'interroger, et c'est la métaphysique.
Aussi dispersée que puisse paraître la vie de tous les jours, elle n'en maintient pas moins l'étang, quoique de façon incertaine, dans une unité de l'ensemble. Alors même, et précisément alors, que nous ne sommes pas spécialement occupés des choses ni de nous-mêmes, vient sur nous cet « en son ensemble », par exemple, dans le véritable ennui. Celui-ci est loin encore, lorsque c'est seulement tel livre ou tel spectacle, telle occupation ou tel désœuvrement qui nous ennuie. Il se déclare lorsque l'ennui nous gagne, l'ennui profond, s'étirant comme un brouillard silencieux dans les abîmes de l'être-là, confond toutes choses, les hommes et nous-mêmes avec eux, dans une étrange indifférence. Cet ennui manifeste l'étang dans son ensemble.
Hey, Flaps, qu'est-ce qu'on va faire?
N'en sais rien, que veux-tu faire?
J'ai une idée. Allons du côté du soleil levant. C'est un coin où il y a toujours de la bagarre et de quoi manger. Ça vous va?
Gauche toujours, Ziggy. De quel côté qu'on aille, tout est mort.
Tu voudrais bien que tout soit mort.
Oh, que c'est drôle.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire?
J'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux faire?
Oh, écoute, Flaps, moi je te dis, qu'est-ce que tu veux faire? Et tu me réponds, je n'en sais rien, que veux-tu faire? Alors je dis, qu'est-ce qu'on va faire? Et tu me réponds, je n'en sais rien, que veux-tu faire? Alors faisons quelque chose.
Ok, qu'est-ce que tu veux faire?
Oh, bon sang, tu recommences toujours la même chanson.
L'ennui est aussi celui des vautours hein, du livre de la jungle. Alors, l'ennui, dont j'ai lu un extrait là, de, toujours de la conférence « Qu'est-ce que la métaphysique ?», l'ennui semble être le pendant inverse de l'angoisse qui nous crispe et nous tend vers ce rien. L'ennui est associé à une situation, au contraire, justement, le rien apparaît de manière tellement, tellement évidente qu'il ne nous angoisse même plus. Philippe Cabestan, ça qui est étonnant.
L'ennui, on retrouve donc une disposition affective fondamentale. Heidegger en dit... pas beaucoup là dans ce texte, puisqu'il en dira beaucoup plus, et c'est une lecture que je recommande, dans les concepts fondamentaux de la métaphysique, où il consacre une très très longue description phénoménologique, j'insiste, une très longue description phénoménologique de l'ennui. Là, nous avons juste un paragraphe, mais qui est intéressant parce que, d'une part, on se rend compte qu'il n'y a pas que l'angoisse. Il ne faudrait pas non plus accorder trop d'importance à l'angoisse. Il y a d'autres dispositions affectives qui permettent aussi de s'interroger d'un point de vue métaphysique. Alors, dans notre texte, dans « Qu'est-ce que la métaphysique ?», l'ennui apparaît en premier. Et on le comprend assez bien parce que l'ennui ici, donc c'est pas quelque chose de précis qui m'ennuie. Ça, c'est une forme superficielle de l'ennui. Par exemple, je suis à un spectacle qui m'ennuie et je me dis, bon, je vais aller dîner au restaurant, ce sera beaucoup plus amusant. Ça, ce serait une forme trop superficielle. Mais lorsque l'ennui profond s'installe, tout m'ennuie. Et il y a cette idée que l'ennui permet effectivement au Dasein, à l'existant, d'avoir accès à l'étant dans son ensemble. Et ce n'est pas rien, ça. Avoir accès à l'étant dans son ensemble, c'est déjà être en route, si je puis dire, vers le rien. Et donc on comprend bien que l'ennui et l'angoisse, ici, sont des dispositions affectives qui, en quelque sorte, se conjuguent, qui peuvent être conjuguées, précisément pour avoir accès au non-étant, avoir accès au rien, et finalement à l'être lui-même.
Les vertus de l'ennui par Heidegger, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Un dernier point avant qu'on arrive au terme de cette discussion, Philippe Cabestan, vous évoquiez en début d'émission deux Heidegger, vous avez tout de suite dit, hein, ça c'est dans le premier Heidegger et le deuxième c'est différent. Qu'en est-il de ce second Heidegger?
Oui, en quelques mots, mais très rapide, il faut bien comprendre que Heidegger a vécu longtemps, qu'il a une œuvre immense derrière lui et qu'il ne répète pas toujours la même chose. Et c'est ce qu'on appelle le fameux tournant, dit Kehre, pour les spécialistes, de la pensée de Heidegger. Et ce tournant concerne effectivement le sens de la métaphysique. Parce que, à partir donc de l'épisode controversé du rectorat, sur lequel je ne m'arrête pas ici, à partir donc de 1934 plus exactement, Heidegger insiste sur une autre dimension de la métaphysique, dans la mesure où il insiste sur l'idée d'un dépassement de la métaphysique. Et là, il y a une signification un peu nouvelle, puisqu'il ne s'agit plus de s'inscrire dans la métaphysique, mais il s'agit d'opérer un dépassement de la métaphysique, c'est-à-dire d'essayer de donner congé, c'est pas facile, de donner congé à, on va dire, la métaphysique telle qu'elle s'est déployée depuis Platon jusqu'à Nietzsche y compris. Puisque pour Heidegger, Nietzsche, qui prétendait, lui, dépasser la métaphysique, qui prétendait se débarrasser des arrière-mondes, en fait, est en quelque sorte la clôture, il clôt l'histoire de la métaphysique. Et donc, Heidegger, qui est un grand lecteur de Nietzsche, Heidegger envisage la possibilité d'un dépassement de la métaphysique, c'est-à-dire d'une autre pensée, qui est bien sûr, en fait, très liée à la question précédente du sens de l'être, mais il y a une inflexion différente parce qu'il s'agit de se placer même du point de vue de l'être lui-même. Et là apparaît une pensée qui est difficile, mais qui est une sorte de tournant dans la pensée de Heidegger à propos de la métaphysique. You gotta have something.
Nothing from Nothing par Billy Preston. Nous retour, on était parti de rien et on arrive vers le rien. Philippe Cabestan, finalement, cette émission est vraiment à tout d'Heideggerien, sans mauvais jeu de mots. Un grand merci à vous d'être venu nous en parler aujourd'hui,
merci.
En tout cas. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage, alors pas sur Heidegger, mais sur Sartre, parce que vous êtes un excellent sartrien par ailleurs. Qui suis-je ? C'est le titre du livre « Sartre, la question du sujet » aux éditions Hermann. Mais comme le rien n'est pas le néant, nous pouvons continuer dans notre être, et c'est tant mieux car notre être est prolongé par les 2 minutes papillon de Géraldine Mosna-Savoie. Comme tous les jours, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance.
Il aura suffi de quelques cylindres pour créer la polémique. Tout autour du chantier des Jardins du Palais Royal où Daniel Buren a installé son œuvre, la discussion va bon train. Monsieur et Madame Michu s'en donnent à cœur joie.
Monsieur Buren a fait une erreur, une seule. Il aurait dû mettre des grandes palissades, on n'aurait rien vu. Et le jour où les gens auraient pu marcher dessus, ça aurait tout changé.
Ils avaient qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air.
Mais moi, je ne comprends pas. Pour faire des bits d'amarrage comme ça, on ne va pas amarrer des chalands, je ne comprends pas.
Il y a 30 ans, Daniel Buren créait la polémique avec ses colonnes dans la cour d'honneur du Palais Royal. Il y a 30 ans commençait ce qu'on a appelé la querelle de l'art contemporain. 30 ans de disputes auxquelles a assisté l'essayiste Jean-Philippe Domecq, auquel il a même participé et qu'il a commenté dans 3 ouvrages aujourd'hui réunis en un seul volume aux éditions Pocket. 3 essais en un donc, soit 900 pages pour pointer la misère de l'art contemporain et surtout le grand vide de sa querelle qui a eu le coup de force de faire parler d'art sans parler d'œuvre, d'éviter même d'en parler, nous dit Domecq. Alors fidèle à ça, ces essais ne parlent donc pas d'art non plus, mais nous racontent une histoire. À la manière de Balzac, c'est la comédie de la critique que Domecq veut nous jouer à coups de personnages croustillants, les artistes imbus d'eux-mêmes et les spectateurs affairés à se condamner entre eux, les réacs d'un côté face aux autres qui se réjouissent de voir l'histoire en marche. Mais voilà, cette histoire de l'art contemporain, pour sa part, Domecq nous dit aujourd'hui qu'elle s'est arrêtée. C'est la fin de l'histoire de l'art contemporain. Eh bien, on est un peu triste que ce spectacle prenne fin, et puis un peu sceptique aussi, car déjà, à partir de quoi se décrète cette fin ? Et puis surtout, qu'est-ce qui vient après ? Après ce moment du contemporain, de l'art du contemporain, comme dit Domecq. Qu'est-ce qui vient après, alors que les avant-gardes sont comme la crise, c'est-à-dire permanente, et alors qu'on ne fait que dépasser du poste, du postmodernisme en l'occurrence depuis des années. Là est la grande question qui court tout au long de ces pages, comme les feuilletons de Balzac, alors qu'un épisode se finit, on veut déjà connaître la suite.
En effet, c'est la grande question de l'art contemporain. Alors le livre s'appelle Comédie de la critique.
Comédie de la critique, 30 ans d'art contemporain, c'est aux éditions Pocket. Et demain, Jean-Philippe Domecq fera une soirée de présentation de cet ouvrage dans la galerie La Ralentie, dans le 11e, c'est à 20h30 et l'entrée est libre.
C'est noté. Merci Géraldine, merci à Philippe Cabestan et merci à tous. L'émission touche à sa fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite et fin de cette série qu'on va consacrer à la métaphysique. Demain, eh bien, nous nous poserons la question de la métaphysique aujourd'hui. Quels sont les débats qui ont cours dans la métaphysique contemporaine? Un état des lieux de la métaphysique aujourd'hui qui sera dressé pour vous par 2 philosophes, Francis Wolff et Michael Fessel. Rendez-vous demain à 10h donc. D'ici là, pour réécouter cette émission ainsi que toutes celles de cette semaine, rien de plus simple, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Nouveaux Chemins, et vous pourrez télécharger, podcaster l'émission afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, à l'heure de votre choix. Rendez-vous également sur Facebook et Twitter où l'équipe des Nouveaux Chemins met en ligne quotidiennement l'émission du jour et attend vos remarques et commentaires.